Bonjour et bienvenue à mon tout premier podcast. Je me présente, mon nom est Ariane Dalpé et je suis la fondatrice de AD Design. AD Design, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de design intérieur qui se spécialise autant dans le résidentiel que dans le commercial. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à nos services, vous pouvez aller visiter soit notre page Instagram à AD design intérieur ou vous pouvez aller voir notre site web qui est addesign.ca. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble des cuisines. Je trouvais que c'était un beau sujet pour commencer le premier podcast étant donné que bon, tout le monde a une cuisine chez eux et je pense que c'est agréable d'avoir un espace qui est autant esthétique que fonctionnel. Donc c'est pour ça qu'on va parler de configuration en premier. Je pense que c'est la base de tout. Il faut choisir premièrement le type de considération qu'on désire dans notre cuisine. Donc, premièrement, il y a le type linéaire qui est un type qui est quand même assez commun, mais son avantage, c'est qu'il peut vraiment être placé dans toutes les pièces et dans tous les styles de maison, étant donné qu'on a tous au moins un mur dans notre cuisine. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être placé assez facilement. Par contre, la cuisine linéaire ne respecte pas le triangle d'activité. Le triangle d'activité, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle qui va être formé par trois espaces d'activité dans la cuisine. Donc, le four ou plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur. Donc, ces trois zones qui sont dans votre cuisine se doivent de former un triangle afin d'avoir une ergonomie qui est vraiment le plus fonctionnel possible. Et l'espace qu'il y a entre chaque zone se doit d'être environ la même distance entre chaque pour avoir vraiment un espace le plus ergonomique possible. Donc, dans la cuisine qui est linéaire, c'est certain que c'est impossible de respecter le triangle étant donné que tous les éléments sont disposés sur le même mur, à moins qu'on y ajoute un îlot qui serait composé soit de la zone évier ou d'une plaque de cuisson avec le four, c'est pas vraiment possible le four, donc avec une plaque de cuisson, c'est la seule chose qui permettrait de respecter vraiment le triangle d'activité dans la cuisine linéaire. Sinon, la configuration en L, qui est quand même quelque chose qui est assez commun, c'est vraiment quand même facile de respecter le triangle avec une cuisine en L. C'est facile aussi, je vous dirais, à disposer dans une pièce. En général, on a au moins tout le temps deux murs ou sinon la deuxième partie du L n'est pas obligée d'être à côté à un mur. Donc, ça peut servir un peu aussi d'un îlot ou d'un comptoir lunch. Et comme je disais, c'est quand même assez facile de disposer les trois zones à distance égale. Sinon, on a la cuisine laboratoire ou parallèle aussi qu'on pourrait appeler, qui est vraiment une configuration qui est idéale pour les pièces qui sont faites en longueur. Donc, les pièces où on n'aurait pas assez de place pour inclure un comptoir de chaque côté et un îlot, c'est vraiment la cuisine laboratoire qui va être à prioriser. Et dans ce cas-ci, c'est quand même aussi assez facile de respecter le triangle d'activité, étant donné qu'on a deux superficies de travail, deux zones qui sont vraiment face à face. Je vous dirais que la meilleure configuration, selon moi, quand l'espace vous le permet, c'est la cuisine en U. La cuisine en U qui est vraiment, je pense, le plus facile en termes de respect du triangle d'activité, étant donné qu'on a vraiment trois surfaces possibles pour disposer. Donc, on vient automatiquement à faire un triangle. C'est aussi, vous avez vraiment une très grande pièce, c'est aussi possible d'ajouter un îlot. Donc là, on parle vraiment d'avoir une grande pièce. Sinon, une des trois façades du U, dans le fond, de la cuisine, pourrait être aussi utilisée un peu comme un îlot ou un comptoir lunch. Donc, ça reste, je pense, une option qui est quand même aussi très intéressante. Donc, une fois que vous avez déterminé la configuration de votre cuisine, c'est bien important de déterminer quelle quantité de rangement vous avez besoin. Donc, idéalement, vous partez de ce que vous avez présentement et là, vous pouvez faire quelques calculs pour savoir combien de rangements en termes de pieds cubes vous avez et vous devez vous demander si ce que vous avez présentement, c'est suffisant, si vous avez besoin de plus ou non. Et à partir de là, vous pouvez, en faisant la reconfiguration de votre espace, soit ajouter, c'est rare qu'on diminue, là, mais soit ajouter ou conserver au minimum ce que vous avez déjà présentement, mais je vous dirais quand même de faire attention parce qu'on est souvent porté à ajouter du rangement, ajouter du rangement, ajouter du rangement constamment, mais à un moment donné, ajouter tout le temps du rangement vient aussi à porter à l'accumulation. On vient vraiment porter à acheter des choses qui ne sont pas nécessaires parce qu'on veut remplir nos espaces de rangement. Donc, faites quand même attention à ça, mais sinon, c'est sûr que c'est bien d'avoir un minimum là, de rangement. Par la suite, je vous dirais que c'est une fois que vous avez décidé votre quantité de rangement, il faut déterminer un peu le type de rangement. Donc, est-ce que vous optez vraiment pour le standard, donc des caissons murales avec des portes et des caissons au bas avec des portes? Est-ce que vous optez pour une section qui va être ouverte? Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir des caissons murales, vous allez mettre des tablettes avec votre vaisselle. Habituellement, on essaie de mettre notre vaisselle qu'on utilise le plus souvent, si on a de la belle vaisselle, pour la mettre en valeur. Donc, c'est un style qui est un petit peu plus montréalais, mais qui est quand même super intéressant. Puis ça permet de, côté esthétique, d'un peu libérer le mur. On garde ça un petit peu plus épuré. Sinon, on pourrait complètement avoir aucun rangement en haut. Donc, la seule chose qui se retrouverait à être en hauteur, souvent, ça va être une hotte, à moins de l'avoir intégrée dans le comptoir. Donc, sans rangement en haut, donc on mise vraiment sur un bel éclairage, on mise sur une belle tuile au mur, donc un dosseret si on veut. Là, c'est sûr que là, rendu à ce moment-là, c'est quand même une grande quantité de dosseret là, qui est nécessaire. Mais c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, surtout lorsqu'on a de grandes pièces à air ouverte. Sinon, l'autre option, qui est une option beaucoup plus commune, je vous dirais, c'est que plutôt d'opter pour des portes de rangement standard, donc avoir des caissons avec deux portes, optez pour des tiroirs. Les tiroirs sont vraiment, vraiment intéressants au niveau du rangement et de la quantité de rangement et aussi l'accès au rangement. Étant donné qu'avec des portes, quand on veut quelque chose qui est au fond, il faut tout le temps tout sortir devant pour réussir à atteindre ce qu'on veut au fond. Avec un tiroir, on n'a pas ce problème-là. On a vraiment accès à tout, donc ça maximise vraiment l'espace de rangement. Maintenant, je vais vous donner un peu les choses que moi j'aime intégrer, qui sont pour moi importantes à intégrer, qui ne sont pas nécessairement une nécessité, tout dépendant des choses, mais qui, je trouve, sont quand même quelque chose qui est très pratique à intégrer. Donc, la première chose, c'est poubelle et compost. Bon, ça, c'est quelque chose qui vous est nécessaire. Par contre, la façon de l'intégrer, je pense que la meilleure serait vraiment d'opter pour l'intégrer dans un caisson. Donc, on a un caisson qui est coulissant, puis ce caisson-là se doit absolument d'être situé près de votre lave-vaisselle et de votre évier, OK? Pourquoi? Parce que quand vous finissez de souper, s'il reste des choses dans vos assiettes, vous voulez les vider avant de les rincer puis de les remettre dans la vaisselle. Si la poubelle est à l'autre bout de la cuisine, parce que, bon, c'est une poubelle qui n'est pas intégrée dans un caisson, mais c'est sûr que ça vient fatigant tout le temps de devoir faire des longueurs dans la cuisine pour aller vider l'assiette, puis revenir la rincer, puis aller la reporter dans la vaisselle. Donc, idéalement, si vous pouvez l'inclure, puis je trouve que c'est aussi vraiment pratique quand on fait le ménage, on lave, on veut juste épousseter les comptoirs, on passe un petit linge, bon, on ouvre la poubelle, puis on peut directement jeter à l'intérieur. Donc, on n'est pas obligé de se promener avec les graines à essayer que ça ne tombe pas par terre, là. Puis, aussi, c'est sûr qu'une poubelle, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Donc, moi, inévitablement, j'essaie de l'intégrer. Et même chose pour le compost, là. Les petits bacs de compost, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, là. Donc, quand on peut l'intégrer, c'est vraiment l'idéal. Deuxième chose, je vous dirais, zone déjeuner, mais une zone déjeuner qui est cachée. C'est sûr que ça fait beaucoup à un moment donné, je trouve, quand on a la machine à café, on a le grille-pain, la bouilloire, peu importe ce que vous utilisez le matin, là, c'est sûr que c'est propre à chaque personne, mais en général, c'est quand même ça les essentiels. Mais pourquoi pas vous créer une zone dans un caisson d'armoire au mur? Un caisson, des fois, souvent, on va avoir un mur de rangement plein, mais ça nous permet d'aller chercher un caisson à une bonne hauteur qui n'est pas trop haute, pas trop basse, qui se trouve vraiment à la hauteur d'un comptoir standard, dans lequel on va pouvoir mettre une prise pour intégrer soit le grille-pain, la machine à café ou toute autre chose que vous avez besoin. Donc, le matin, on ouvre la porte. Et essayez de ne pas opter pour des portes, par contre, qui sont battantes. Donc, pas deux portes battantes, là, ça devient fatigant, c'est dans le chemin. Soit une porte coulissante qui coulisse d'un côté ou de l'autre, si vous pouvez vous le permettre. Sinon, une porte qui s'ouvre vers le haut. Donc, au moins, quand elles sont ouvertes, elles peuvent rester ouvertes sans être dérangeantes pour toute autre personne qui voudrait circuler dans la pièce. Aussi, au niveau de la prise, vérifiez tout le temps avec votre électricien parce qu'il y a quand même des normes en lien avec ça. Donc, ça prend une prise spécifique, tout dépendant de ce que vous voulez inclure là, dans votre espace déjeuner. Donc, à bien vérifier avec un électricien. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pratique. Puis quand on a terminé de déjeuner, bien, on fait juste refermer la porte. Il n'y a plus de graines de toast le matin qui traînent partout sur le comptoir. Tout reste vraiment dans l'armoire. Puis c'est simple, facile, efficace et surtout très fonctionnel. Sinon, si je reviens, mon autre point serait vraiment les tiroirs et les sous-tiroirs. Comme je disais tantôt, les tiroirs sont vraiment pratiques afin de maximiser le rangement et d'avoir un meilleur accès à celui-ci. Par contre, vous pouvez aussi ajouter des sous-tiroirs, donc un tiroir dans un tiroir. C'est vraiment, vraiment pratique pour soit les ustensiles, si vous n'avez pas de petits tiroirs là, plus standard. Ça peut être très pratique pour les ustensiles parce qu'en général, c'est quand même une grande surface. Donc, vous pouvez vraiment tout voir dans un seul et même tiroir. Sinon, je vous dirais que moi, j'aime bien dans un de mes sous-tiroirs, j'ai tout plein de petits pots maçons identifiés avec mes thés. Donc, ça pourrait être aussi des épices. Ça permet vraiment de visualiser immédiatement. On ouvre le tiroir et on a tous les noms qui sont écrits dessus. De pouvoir. En fait, c'est vraiment que ça fait que c'est beaucoup plus fonctionnel. Là. Les épices, c'est le genre de choses qu'on a dans des sachets, on cherche, on les trouve pas. Bon, qu'est-ce que je cherche? Donc, en ayant vraiment un tiroir, sous-tiroir avec tout identifié, c'est super facile. C'est vraiment simple, puis ça prend pas de place. Donc, souvent, dans un, si vous avez des grands tiroirs de 15 pouces, en général, c'est rare qu'on empile pour plus que 15 pouces là, de choses dans le tiroir, là, si c'est des bols pour les repas ou peu importe. Là. Mais sous-tiroir, c'est vraiment une belle option. Ça peut être très pratique aussi pour ranger les napperons et aussi opter vraiment si vous ajoutez des tiroirs à votre aménagement, optez pour le système de fermeture, soft close, qui est un système qui permet au tiroir de se fermer doucement. Donc, ça claque pas là, à chaque fois que vous fermez le tiroir. Ça vient majoritairement avec. Maintenant, c'est quasiment rendu le produit de base, mais quand même vérifier parce que c'est vraiment dommage quand à chaque fois qu'on ferme une porte ou un tiroir, ça claque. Dernière petite chose que j'aimerais intégrer, mais que je trouve bien intégrée, c'est les coups de pied qui permettent de mettre du rangement. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment la section qui est dans le bas de l'armoire qui s'appelle le coup de pied, qui a environ 4 pouces de haut. C'est possible d'intégrer un petit tiroir dedans ça. Donc, c'est vraiment un système touch latch. Donc, on pousse sur le coup de pied avec notre pied et il ouvre. C'est vraiment pratique pour mettre tout ce qui est plaque à biscuits, si on a des bols qui sont assez, qui sont pas super hauts, mais qui sont quand même volumineux, c'est super intéressant de pouvoir les ranger là. Donc, vraiment, c'est un petit ajout qui est subtil parce qu'on ne le voit vraiment pas, mais qui est vraiment très pratique. Donc, pour tout ce qui est de la configuration, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. J'aimerais maintenant pouvoir parler des matériaux et des finis avec vous. Donc, si je parle, pas des caissons, mais des portes, en termes de portes, il y a quand même plusieurs matériaux qui existent. Le bois, premièrement, le bois, c'est quand même un matériau que tout le monde connaît, qui existe depuis des années et des années. C'est vraiment un matériau de base. Ça peut être super intéressant d'utiliser une fois teint. Par contre, c'est aussi possible de le peindre. C'est sûr qu'on n'a plus le veinage du bois, mais au niveau de la durabilité et aussi au niveau de... Si vous décidez de rénover dans 10 ans, si vos portes ne sont pas maganées, s'ils sont en bois, c'est vraiment facile de pouvoir les décaper. Puis, si vous décidez d'avoir des portes là, où vous voulez voir le fini du bois, bien, vous pouvez les reteindre puis les revernir. Vous pouvez seulement les sabler, les repeinturer. Donc, ça permet de conserver quand même le produit un petit peu plus longtemps qu'une porte... qui va être en mélamine ou stratifié où on ne pourra pas vraiment faire ça là, à ce moment-là. Donc, si je passe justement à la mélamine, c'est le produit vraiment d'entrée de gamme. Donc, c'est un produit de base qu'on va souvent retrouver dans les constructions neuves. C'est le matériau d'entrée de gamme. La mélamine, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau de particules qui est recouvert d'une feuille de mélamine, mais c'est une feuille qui est imbibée de résine. Donc, la feuille qui est imbibée, elle est appliquée sur le panneau particules et c'est ce qu'on appelle la mélamine. C'est sûr que c'est un produit qui est un petit peu moins résistant, mais qui peut quand même très bien faire là, en termes plus esthétique. Sinon, vous avez le stratifié. Ça vient dur des fois de mélanger mélamine, stratifié. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça, c'est la même chose? Eh bien non, ce n'est pas la même chose. Ça peut se ressembler esthétiquement parlant. Par contre, au niveau de la durabilité, c'est pas le même produit. La mélamine, c'est vraiment le panneau particules qui est recouvert. Le stratifié, c'est un empilement de feuilles de papier kraft qui sont, eux, imbibés de résine. Donc, c'est vraiment plus résistant. Et par la suite, on ajoute par-dessus ça une autre feuille qui est imbibée, mais qui va vraiment plus servir de finition, qui va avoir le motif là, intégré. Donc, c'est sûr qu'on parle quand même d'une dureté de produit qui est assez différente. Sinon, autre chose, il y aurait les portes en polyester, ou souvent appelées thermoplastiques. Vous reconnaissez pas mal, probablement plus avec ce nom-là, mais le thermoplastique est vraiment du polyester moulé à chaud. Donc, c'est sûr qu'on a moins, on a vraiment un aspect uniforme parce que c'est un seul morceau qui va être appliqué. Moi, j'aime un petit peu moins le côté, le look plastique que ça donne, mais bon, encore là, c'est une question de goût et au niveau de la dureté, c'est quand même bien. C'est quelque chose qui est quand même assez résistant, donc thermoplastique, ça peut être aussi un produit qui est intéressant. Si on parle maintenant plus de la configuration des modèles de portes, c'est sûr qu'on a les portes qui sont entièrement planes, qui vont donner un look beaucoup plus moderne. Sinon, on a les portes shaker qu'on entend, qui sont assez tendance là, présentement, donc une moulure carrée qui fait tout le tour. On a les portes un petit peu plus moulurées qui revient tranquillement, le style un petit peu plus classique, souvent agencé avec des éléments un petit peu plus contemporains. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi les portes de verre, donc des portes avec des vitres qui peuvent être super intéressantes à intégrer aussi. Encore là, on peut se permettre de montrer la vaisselle qui est un petit peu plus esthétique. Et ça fait un beau mélange. On peut aller chercher des portes en verre plein, ça peut être du verre à carreaux. On peut avoir un verre qui est uni, on pourrait avoir un verre givré. Donc, il y a vraiment là, une multitude d'options à ce niveau-là. Puis, au niveau définis des portes, eh bien, c'est sûr qu'il existe des finis maintenant qui sont mâts. C'est assez récent que c'est des produits qui sont assez récents et qui sont aussi assez dispendieux, mais faites attention quand vous vous lancez dans les produits qui sont d'aspect mat, de vraiment vérifier que c'est un produit qui est anti-tache parce que sinon, vous allez voir que au niveau de l'entretien, ça demande vraiment énormément d'entretien, sauf quand c'est des produits qui sont anti-tache, bien sûr. Sinon, eh bien, on a tout le temps la finition standard, là, qui est un lustre pas trop élevé, mais qui permet quand même de bien entretenir les portes. Et sinon, on a l'aspect laqué, donc l'aspect vraiment lustré de la porte qu'on voit souvent sur des portes qui sont complètement planes, sans poignées et dans des looks un petit peu plus modernes. Au niveau de la coloration, je vous dirais, osez dans les couleurs, les choix de finis, osez mélanger le bois avec des portes qui sont peintes et qui sont unies. Osez mélanger deux couleurs de portes, ça peut être super intéressant. Sinon, venez rehausser là, avec un comptoir ou un dosseret si vous optez pour des portes qui sont vraiment toutes complètement uniformes. Mais ça peut être super intéressant, honnêtement, de jouer avec les finis. Là. Donc, laissez-vous aller et soyez créatifs. Donc, si maintenant on passe au comptoir, donc on a parlé du positionnement de votre cuisine, de l'ergonomie, on a parlé de vos portes d'armoire, une fois que tout ça est choisi, les comptoirs. Donc, les comptoirs sont quand même un élément assez essentiel dans votre cuisine. L'entrée de gamme, je vous dirais encore là une fois, c'est le stratifié. Donc, c'est un produit c'est pas mal le moins dispendieux sur le marché et maintenant, on a quand même énormément de finis et de textures disponibles dans le stratifié. On a aussi différentes gammes de prix et différentes qualités. Donc, faites attention, restez quand même alerte. Là. C'est sûr qu'il y a différents prix au niveau des stratifiés, dépendant du fini, dépendant de la texture, dépendant de la qualité. Donc, mis à part le stratifié, il y a le bois qui peut être aussi un produit intéressant à intégrer. Par contre, moi, je vous suggère de l'intégrer pas à partie entière de votre cuisine. Donc, si vous avez le comptoir principal qui se trouve à être par exemple en stratifié ou en quartz, peu importe, vous pouvez opter pour un comptoir de bois pour l'îlot. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le comptoir de bois nécessite beaucoup plus d'entretien. Il va nécessité d'être huilé à peu près à toutes les années, puis c'est certain qu'il est un petit peu moins résistant aux taches qu'un comptoir en stratifié, par exemple, ou en tout cas qu'un autre comptoir. Donc, sinon, il y a aussi la possibilité de le vernir, mais il faut vraiment bien s'informer parce que les vernis mat et le vernis en général, en fait, là, c'est pas toutes les vernis qui peuvent être appliqués sur le bois premièrement, mais aussi qui peuvent convenir à un comptoir de cuisine. Maintenant, si je passe à un côté plus pierre naturelle, je vais commencer avec le quartz. Le quartz qui est pas un bloc de pierre pure, c'est vraiment un mélange de pierre naturelle concassée, si on veut, et de résine. Donc, c'est un assemblage là, qu'on pourrait appeler. Donc, cet assemblage-là permet d'avoir vraiment des motifs qui vont être prédéterminés. Donc, les motifs sont choisis, puis c'est possible, quand on a de longues surfaces, de faire poursuivre les motifs d'une surface à l'autre, ou si on décide d'avoir une surface verticale et une horizontale, le motif peut se poursuivre parce qu'on a une latitude en termes de motifs et de couleurs, étant donné que le motif est vraiment créé. Donc, c'est vraiment possible de reproduire le même motif. C'est un produit qui est quand même très résistant à l'humidité et aux taches, qui est aussi très résistant au choc et à la chaleur. Donc, c'est un produit que je vous recommande énormément pour une cuisine. C'est sûr que c'est plus dispendieux que la stratifiée, mais au niveau du cachet puis au niveau de ce que ça dégage, je trouve que c'est quand même un produit qui est super intéressant. Sinon, si on reste dans la pierre naturelle, il y a aussi le granit qui est, lui, à l'inverse du quartz, qui est vraiment à son état pur. Donc, le granit, chaque dalle est complètement différente l'une de l'autre. Chaque dalle est unique. C'est vraiment... Donc là, c'est sûr que ça devient plus difficile si on a de grandes surfaces qui nécessitent un joint d'avoir exactement la même chose. Mais quand même, tout dépendant du motif, ça, là, au niveau du look, ça peut être quand même vraiment super joli. C'est un produit qui est super résistant au choc et à la chaleur. Par contre, c'est un produit qui doit être scellé et qui doit être recellé après les années. Le quartz ne demande pas ça, donc c'est le seul inconvénient. Le granit doit être scellé, il est un petit peu moins résistant aussi aux taches. C'est un produit qui va absorber un petit peu plus que le quartz, par exemple. Par contre, son avantage est aussi qu'on peut l'installer à l'extérieur. C'est un produit qui est résistant au UV. Donc, si vous décidez de faire une cuisine à l'extérieur, c'est un produit qui peut être super intéressant. Sinon, il y a aussi le corian. Le corian, c'est un produit qui est fait de polymère. C'est un produit qui est super intéressant quand on parle de commercial. On l'utilise un petit peu moins dans le résidentiel parce que c'est un produit qui est un petit peu moins résistant aux rayures et à la chaleur. Donc, c'est sûr que dans une cuisine qui va être quand même sujet à ces choses-là, je vous le recommande, mais quand même un petit peu moins peut-être que les autres produits qu'on a parlé précédemment. Son avantage, par contre, est qu'il n'y a vraiment aucun joint avec le corian et que c'est un produit qui est complètement antibactérien. En plus de tout ça, c'est aussi un produit qui est écologique d'une certaine façon car on peut le renouveler. Donc, c'est quand même un produit qui est intéressant, mais moi, personnellement, je le garde plus pour tout ce qui est plus commercial ou en tout cas pour une autre pièce qu'une cuisine. Dernier produit, je termine avec la porcelaine qui est un produit qui est assez récent. Ça commence tout juste à rentrer sur le marché, mais c'est un produit qui est super résistant. On ne serait pas porté à penser que la porcelaine est aussi résistante que ça, mais c'est vraiment super résistant. Puis en plus, c'est antibactérien, donc c'est vraiment intéressant. Ça peut être installé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout aussi résistant au UV que le granit. Et ce qui est intéressant, c'est son épaisseur qui est seulement d'un demi-pouce. Donc, on peut aller chercher vraiment un style qui est plus épuré et moderne. C'est aussi possible de le faire refouler là, pour avoir un 3/4 de pouce ou un pouce et quart comme un comptoir standard. Mais je vous mentionne quand même que ça peut être super intéressant de l'utiliser dans son épaisseur standard qui est un demi-pouce d'épaisseur. J'aimerais quand même glisser juste un petit mot sur les comptoirs de béton parce que c'est quand même une autre option qui peut être intéressante parce que vous pouvez vraiment personnaliser au niveau de la couleur, de l'épaisseur et de la forme. C'est quand même un produit qui est résistant, mais c'est beaucoup plus résistant que le béton de base étant donné que c'est scellé en usine. Et en lien avec le béton, il y a aussi le micro-topping qui est un béton de polymère qui est l'option, si on veut, moins dispendieuse que le comptoir de béton standard, étant donné qu'il peut être appliqué sur votre comptoir de stratifier si votre comptoir de stratifier est en bon état. Là, par contre, il faut s'assurer de ça. Mais si le comptoir de stratifier est en bon état et vous voulez faire seulement des travaux mineurs, le micro-topping est vraiment intéressant. Il peut être appliqué directement dessus. Sinon, eux vont construire un comptoir, si on veut, en bois sur lequel ils vont appliquer le produit. Donc, pour les comptoirs, ça fait pas mal le tour. Je vous dirais que moi, mon coup de cœur, c'est vraiment la pierre naturelle. Mais comme je dis, c'est bien de pouvoir mélanger aussi. Le bois, c'est un super bel ajout. La porcelaine peut donner un très beau résultat et quand même un petit peu moins cher que le quartz. Donc, c'est vraiment à considérer. Si maintenant, on passe à... j'aurais aimé, en fait, vous parler des éviers rapidement parce que, bon, c'est pas un... C'est quelque chose qui est quand même relativement simple. En termes de configuration, on a des éviers qui sont sous plan, sur plan. Et il y a les éviers à tableau, donc on voit la façade à l'avant, qui reviennent en fait dans les dernières années. Au niveau des finis de base, c'est sûr que le stainless est le produit qui est probablement le plus vendu quand on parle d'éviers de cuisine. Par contre, je vous conseille vraiment très fortement d'utiliser, d'investir dans une grille pour mettre au fond. C'est environ une centaine de dollars de plus, mais je trouve que ça vaut énormément la peine parce que sinon, ça se graffine énormément et assez rapidement, honnêtement. Là, j'ai été quand même surprise. Donc, vraiment, opter pour une grille, ça l'aide beaucoup. Puis, pour le prix, je trouve que ça vaut quand même la peine. Sinon, il y a les éviers en porcelaine qui sont de retour, en fait, dans la dernière année. Et je pense qu'ils vont être quand même assez populaires dans les années qui s'en viennent. Il y a aussi les éviers en composite de granit qui sont assez intéressants parce que c'est un produit qui n'est pas lustré. C'est un produit qui est plus rugueux, qui va être complètement mat, qui fait vraiment un petit peu plus comme de la pierre. Et souvent, on va le voir dans des éviers à tableau ou des éviers sous plan. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment des beaux produits. Ils sont un petit peu plus dispendieux, mais quand même, on peut comparer un évier en stainless de bonne qualité à un évier en composite de granit. Puis on parle de peut-être 100 ou 200 $ de plus, mais au niveau du look, c'est complètement différent. Et aussi au niveau des rayures et tout, je trouve que c'est vraiment un produit qui est à considérer et qui est quand même vraiment très intéressant. Et sinon, c'est sûr que si vous optez pour un comptoir de béton, eh bien, ça peut être intéressant aussi de concevoir un évier qui va être intégré au comptoir en béton. Une fois scellé, ça peut être aussi un produit qui est très intéressant. Si je passe au côté un petit peu plus accessoire, donc là, dans le fond, on a parlé un petit peu de tout ce qui composait votre cuisine, les éléments essentiels. Maintenant, si on parle le côté plus accessoirisé de la cuisine, c'est vraiment les poignées. Donc, il y a une multitude de choix de poignées. Honnêtement, là, essayez de sortir des quincailleries là, qui sont chez Rona, chez Home Hardware. Sortez de ça. Le Richelieu, ils ont des beaux produits. Je l'accorde puis je commande quand même régulièrement de là. Par contre, ils ont tellement de belles poignées. Allez sur Internet, allez dans d'autres boutiques, des petites boutiques qui ont vraiment des belles poignées. Vous pouvez aller voir sur Réjuvénation. Moi, j'ai acheté des poignées là dernièrement et honnêtement, la qualité, elle est quand même très bonne. Et ils ont, je ne sais pas combien de choix, là, mais honnêtement, ils ont tellement de choix de modèles, mais surtout tellement de choix de couleurs et de finis. Il y a une multitude. Là, dans les dernières années, on a vraiment eu un gros boom de retour des métaux. Donc, il y a beaucoup de poignées dans le doré. Il y en a dans le copper, donc rose gold. Il y a des poignées noires, des argents. Puis là, dans tout ça, il y en a des lustrés, puis il y en a des brossés. Puis on a une multitude de modèles de poignées, des boutons. On peut les mélanger avec des poignées plus vintage ou on peut mélanger. Donc, c'est vraiment intéressant, je pense, de venir puncher là, les armoires avec de jolies poignées. Sinon, il y a toujours aussi le système touch latch qui peut être intéressant quand on cherche à avoir quelque chose de vraiment plus épuré. Par contre, moi, par expérience, ce qui m'a déplu un peu dans ce système-là, c'est surtout au niveau de la zone évier. Là, quand on fait la vaisselle puis on s'accote, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tout le temps tendance à m'accoter sur les portes d'armoire qui sont en dessous de l'évier. Puis, je passais mon temps à ouvrir les portes sans le vouloir. Donc, ça venait un petit peu fatigant là, à la longue, je vais avouer. Puis aussi, si vous avez des enfants, bien, c'est certain que c'est pas un produit qu'on peut, comme avec des portes normales, là, mettre des systèmes pour éviter que les portes y rouvrent. Avec le touch-latch, c'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'avec les enfants, ça peut devenir peut-être un petit peu plus fatigant et ça salit quand même un petit peu plus les portes aussi, étant donné qu'on met tout le temps nos mains dessus plutôt que de tirer sur une poignée. Donc, c'est seulement les points qui sont un petit peu plus négatifs, mais au côté du look, c'est sûr que ça peut faire super épuré. Ça peut être quand même super intéressant. Donc, dernier point, qui est un point super important parce que c'est l'éclairage. L'éclairage dans n'importe quelle pièce peut faire vraiment toute la différence. Je vous en parle brièvement parce que l'éclairage va être le sujet de mon prochain podcast, mais dans votre cuisine, vous devez absolument avoir au moins les deux types d'éclairage suivants, soit l'éclairage général, qui est l'éclairage souvent va être généré par des encastrés qui vont être sur des gradateurs, donc qui permet de déterminer ça va être quoi l'éclairage général de la pièce. Mais vous avez aussi besoin d'un éclairage d'appoint, un éclairage fonctionnel qui va souvent être au-dessus de l'îlot si vous en avez un, ou au-dessus de votre zone de travail, que en général ça va être des suspensions, mais qui vont vraiment vous donner un éclairage fonctionnel. Donc, quand vous voulez faire à manger, l'éclairage qui va être dirigé directement au-dessus du plan de travail. Donc, vous n'aurez pas d'ombrage là, qui va vous nuire à ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est vraiment les deux éclairages pour la cuisine. Mais si vous voulez vous en savoir plus par rapport à l'éclairage, la semaine prochaine, mon prochain podcast, je rentre vraiment dans les détails. Puis vous allez être surpris de voir à quel point l'éclairage, c'est important. Puis tout ce qu'on peut créer avec différents jeux d'éclairage. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram à ad_design_intérieur et vous pouvez aussi aller consulter mon site web addesign.ca si vous voulez avoir plus de détails. Sinon, eh bien, on se voit mercredi prochain avec un podcast sur l'éclairage. Bonne journée!